J'espère au moins qu'il y aura une bonne photo. Alors, monsieur, mesdames, messieurs, conformément à l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans, à la majorité des membres qui le composent, le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette même loi précise, vous le savez, d'une part, que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique que vous avez joint à votre dossier de candidature, et d'autre part, que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétences et d'expérience. En application de ces dispositions, il revient donc au Conseil de procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Et dans cette perspective, donc, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre dans une résolution du 26 février dernier, qui a été publiée au Journal officiel. Le calendrier de cette procédure, que nous avons souhaité à chaque étape la plus transparente possible, a été modifié compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Et je voudrais juste ici en rappeler les principales étapes. Un appel à candidature a d'abord été lancé, qui a été clôturé le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques correspondants ont été publiés mercredi dernier. Nous auditionnons depuis hier et aujourd'hui les candidates et les candidats, dont les candidatures ont été jugées recevables par le Conseil, dans un ordre qui a été déterminé par un tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, donc, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée qui interviendra au plus tard ce vendredi 24 juillet. Donc, dans ce cadre, monsieur, je vais vous céder dans quelques instants la parole pour une présentation liminaire d'une durée maximale de 30 minutes, qui pourrait être suivie de quelques questions des membres du collège. Cette première partie de l'audition, d'une durée d'une heure, est publique. Elle est retransmise sur notre site et accessible, comme vous le voyez, aux personnes en situation de handicap. Cette première partie sera suivie d'une discussion avec les membres du collège, d'une durée d'une heure également. Seconde partie qui, elle, se déroulera à huis clos, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000. Monsieur, vous avez la parole.
Monsieur le Président, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, si vous le permettez, je vais commencer devant vous aujourd'hui par une question. Si aujourd'hui en France, nos concitoyens devaient payer pour accéder à l'audiovisuel public, on peut s'interroger, se demander combien seraient prêts à le faire. Alors la question a l'air sans doute un peu provocatrice. Je pense que dans cette question, il ne faut pas voir la question financière, mais il faut voir la question du besoin du service public. Je pense que c'est ce qu'elle exprime. Et cette question-là, pourquoi vient-on regarder les chaînes publiques? Cette question-là, c'est une question qu'à mon sens, un dirigeant d'audiovisuel public doit se poser tous les jours. Et d'une certaine façon, cette question-là, au cours d'une période très récente, a été posée au Royaume-Uni par le gouvernement de Boris Johnson et par un référendum en Suisse. Elle est donc à nos frontières. Ce n'est plus une question théorique, et je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, regarder les choses en face. D'autant plus que nous vivons aujourd'hui une forme de paradoxe. On voit bien que le service public en général fait l'objet d'un véritable regain de considération, de valorisation d'intérêt. C'est vrai, bien sûr, pour le service public de la santé. Ça l'est certainement également pour celui de la justice, pour celui de la police. Et cela devrait naturellement être également le cas pour la télévision. Et pourtant, malgré des efforts réguliers qui ont été faits au cours des années passées, eh bien, je crains que le constat diffère un peu. Alors, pourquoi? Il y a la raison classique que nous connaissons tous, qui est toujours celle de la différenciation de l'offre entre les chaînes publiques et les chaînes privées. Mais il y a aussi, vient se rajouter aujourd'hui à cette question-là, un nouveau défi, qui est celui de ces plateformes numériques payantes, elles sont pourtant payantes, de diffusion de contenu audiovisuel, également celle des médias sociaux. Il concurrence aujourd'hui le service public sur des points essentiels. Ces points sont d'abord le temps d'usage, la durée, le temps disponible. C'est la première concurrence. La deuxième est la créativité. Ces plateformes, notamment, font beaucoup d'efforts en matière et ont une offre riche en matière de documentaires, en matière de fiction, qui sont naturellement des marqueurs du service public. Ces plateformes, ces réseaux sociaux posent aussi une question, j'y reviendrai si vous le souhaitez, en matière de crédibilité de l'information. Et enfin, en termes d'intérêt et de consommation des publics jeunes. Je crois avoir rassemblé au cours de ma vie professionnelle une expérience utile pour répondre à la fois à cette question et à ce défi. Je suis dirigeant, vous le savez, de médias depuis un peu plus de 20 ans. Les médias sont ma vie, sont ma passion. Je suis un homme, mais je suis aussi un homme de médias. Et je dirais que c'est sans doute l'endroit où je suis le plus utile. J'ai alterné au cours de ma vie professionnelle des responsabilités dans des entreprises publiques, dans des entreprises privées. Et de par ces expériences, aussi bien mon passage dans le premier groupe européen, le groupe RTL, que comme vice-président de l'UR, je crois que j'ai aujourd'hui une vue assez précise de l'état de l'art, si j'ose dire, de la télévision, que ce soit en France ou en Europe. Et c'est cette expérience qui me permet de porter aujourd'hui devant vous ce projet, cette vision que je crois ambitieuse et structurante pour l'audiovisuel public, et particulièrement, naturellement, pour la télévision publique en France. France Télévisions est une entreprise qui a des missions de service public. Je ne vous apprends rien, c'est un énoncé simple, et pourtant, il a donné lieu à beaucoup de confusion. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas en effet confondre l'entreprise publique, qui est un statut, et le service public, qui est une mission. Il faut donc faire en sorte qu'à sa mission de service public corresponde une offre éditoriale de service public et non une logique de concurrence avec les groupes privés. Mais il faut aussi faire en sorte qu'à son statut d'entreprise publique corresponde une gestion efficace et une recherche de la performance. Et de ce point de vue-là, non l'inertie qui serait prétendument inhérente au groupe public. Pour tirer les conséquences de cette conception, ma stratégie repose donc sur deux axes majeurs que je vais développer devant vous. Le premier consiste à effectuer un virage éditorial en mettant davantage, encore davantage, de programmes de service public sur le service public pour proposer un projet éditorial fort, incontestable, utile. Il consiste aussi à réinventer en partie l'offre pour bien articuler l'offre des chaînes, l'offre linéaire et l'offre numérique. Le second axe consiste, lui, à opérer une évolution du management et en partie de l'organisation de l'entreprise pour la rendre plus agile, plus efficace. Cela consistera aussi à rétablir une situation financière qui est dégradée en 2020, qui sera dégradée en 2020, et surtout dégager des moyens pour ce qui doit être la priorité du service public, les programmes. Commençons donc par le virage éditorial. Les Anglais ont cette formule très simple qui est « programs first ». En France, on le traduit habituellement par « le programme est roi ». Et je crois que c'est bien évidemment là, sur le programme, sur la proposition de contenu, que se joue d'abord l'utilité et la légitimité du service public. C'est donc dans ce domaine que j'entends agir en priorité. Les programmes sont véritablement l'oxygène du service public. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui créent le lien vital avec les téléspectateurs, avec nos concitoyens, mais ce sont aussi eux qui donnent le sens de l'entreprise et donc la confiance au personnel de l'entreprise et la fierté d'appartenir à cette belle entreprise France Télévisions. Que ce soit sur France 2, que ce soit sur Paris Première, sur W9 et ensuite sur RTL, chaque fois que je me suis retrouvé au cours de mes mandats sur ces entreprises de contenu, j'ai à chaque fois profondément renouvelé l'offre de contenu. Sur RTL, nous avons changé 90% du programme au cours des 5 premières années. Pour atteindre les objectifs de service public, il faut donc un virage éditorial et celui-ci doit se fonder sur l'innovation et la créativité. Pour cela, il faut un lien avec les créateurs, un lien privilégié, notamment bien sûr ceux qui font des programmes de télévision. Il leur faut leur laisser une liberté de création, d'expression. Il faut faire le choix de la diversité. Il faut naturellement soutenir la création audiovisuelle, qui est bien sûr un des éléments de notre souveraineté. Mais une fois qu'on a dit ça, tout le monde le dit. Je crois qu'il y a une différence. La différence, elle est fondamentale et on l'oublie parfois. C'est que la télévision publique est particulièrement en bonne situation pour s'appuyer sur l'innovation et la créativité. Pourquoi ? Tout simplement parce que son régime aujourd'hui fait qu'elle n'a pas accès à la publicité après 20 heures. Donc cela donne une véritable liberté. Et surtout, on a le droit de prendre des risques, on doit prendre des risques, on a le droit à l'échec, parce qu'on n'a pas totalement ce qu'on a dans les entreprises privées, évidemment, ce diktat de l'audience commerciale. Pour soutenir la création française et européenne, je souhaite donc engager la suppression des programmes de séries nord-américaines en première partie de soirée. Je crois que ce n'est pas un effet d'annonce, je crois que c'est la possibilité de renforcer la spécificité de France Télévisions par rapport aux offres des chaînes privées, mais surtout de créer des nouveaux espaces d'innovation. La question d'ailleurs de la concurrence, de la créativité, est une question qui va prendre une dimension nouvelle, encore plus aiguë, avec la transposition de la directive SMA. Selon le CNC, une fois cette directive transposée, la contribution des plateformes payantes numériques sera de près de 200 millions d'euros à la création sur notre territoire. Et un certain nombre de projections estiment qu'à horizon de 4-5 ans, ce montant pourrait atteindre 500 millions d'euros, soit un montant très proche de celui de France Télévisions. France Télévisions ne sera donc plus nécessairement le premier contributeur à la création audiovisuelle dans notre pays, mais surtout, ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a un risque d'assèchement des talents. Cela veut dire que la compétition va être féroce dans ce domaine. Et donc, je crois que c'est en étant audacieux, en prenant des risques et en renforçant le lien avec les créateurs, les auteurs et les producteurs que nous répondrons à ce défi. Le virage éditorial que je préconise pour les antennes publiques repose sur des initiatives qui concernent aussi bien un certain nombre de genres comme la fiction, qu'un certain nombre de thématiques, comme la culture. La fiction sur France Télévisions a des succès incontestables. Mais je crois qu'il faut que la part de la fiction policière soit moins forte, et donc pour cela, il faut diversifier l'offre, diversifier la fiction, et surtout en renforcer le sens. La fiction, c'est naturellement un outil formidable pour le lien social, pour comprendre la société dans laquelle on vit. Mais quand on regarde les fictions dans notre pays, et là je ne parle pas que du service public, on y voit rarement des problèmes de fin de mois. Je ne dis pas que toutes les fictions doivent traiter des problèmes de fin de mois, mais je pense que ces réalités doivent aussi être prises en compte dans la fiction. Il faut par ailleurs relancer une offre ambitieuse et moderne de fiction historique et d'adaptation de notre patrimoine littéraire. Je crois que c'est un des éléments non seulement de la signature, mais de l'utilité du service public. Le divertissement peut lui aussi être le lieu de l'innovation et de la créativité. Et il a naturellement sa place sur France Télévisions. Mais la question du développement des formats nationaux est essentielle pour notre souveraineté culturelle. Je veux dans ce domaine prendre devant vous un engagement. À la fin du mandat, pour un format étranger, il y aura au moins un format français ou européen, soit la parité. Cela dépendra bien sûr de France Télévisions, mais cela dépendra aussi de la créativité du marché et ce sera à France Télévisions de la stimuler. Le développement de formats originaux français sur les antennes de France Télévisions doit faire l'objet d'une attention toute particulière. J'entends également, comme vous avez pu le voir dans mon projet, renforcer la présence de la culture sur les antennes publiques. Je fais de ce point de vue-là un certain nombre de propositions, mais je voudrais devant vous aujourd'hui n'évoquer que les deux principales. Installer le spectacle vivant sous toutes ses formes de façon hebdomadaire en première partie de soirée sur les antennes du groupe et installer une émission culturelle quotidienne, ouverte à toutes les disciplines, à destination du grand public et qui donne envie d'accéder à la culture, de faire des sorties culturelles et, je dirais, pas seulement à Paris. Ça, c'est le souvenir du dirigeant de RTL que j'ai été et notamment de cette très belle émission matinale culturelle qui s'appelle « Laissez-vous tenter », dont le nom déjà est un résumé du projet. Il faut aussi développer et approfondir certaines thématiques sur le service public. Le débat en fait naturellement partie. Cette thématique, pour moi, doit retrouver toute sa place sur les antennes publiques. Certes, celui-ci, lorsque l'on regarde les chaînes d'information en continu, privées, est devenu sans doute une expansion extrêmement multiple, très présente. Mais je crois qu'à contrario, cela le rend d'autant plus souhaitable sur les antennes publiques. Parce que je crois que là encore, France Télévisions peut exprimer sa différence. Je pense qu'il faut aujourd'hui une place, et on ne la trouve pas toujours sur les antennes privées, une place pour un lieu d'échange intelligent qui fasse place à la nuance et à la complexité, avec pédagogie bien sûr. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aussi que le débat ne soit pas réservé aux experts et aux sachants. Je pense que le débat doit être plus ouvert et doit être synonyme d'ouverture. En un mot, il est parfois dans des situations difficiles qu'une société moderne peut traverser, aujourd'hui comme hier et comme demain. Je crois que le débat sur les antennes publiques est un lieu de conciliation possible. En tout cas, la télévision peut être un outil de réconciliation. La deuxième thématique qui me semble devoir être également une priorité, c'est celle de l'environnement. France Télévisions peut et doit apporter une contribution forte dans ce domaine-là en donnant aux Français une information claire, une information scientifique et aussi une information qui tienne compte des réalités économiques. Pour cela, je crois que l'environnement, il faudra au minimum, il doit être dans beaucoup de formats, sur beaucoup d'antennes du service public, mais il faudra une émission régulière, hebdomadaire, sur cette thématique-là. J'ajouterai que c'est un sujet qui intéresse toutes les générations et bien évidemment les plus jeunes générations. Troisièmement, l'information. C'est bien sûr le lieu majeur d'expression du service public. Et ne voyez dans mon ordre aucune signification. Je dirais même dans l'absolu que si je devais, par ma formation professionnelle et ma façon de voir les choses, peut-être que je mettrais l'information en premier. Mais là n'est pas le sujet. L'information aujourd'hui sur France Télévisions, c'est naturellement une étendue et une profondeur de l'offre formidable. Les journaux, les magazines d'infos, l'offre numérique, la chaîne d'infos en continu. En un mot, France Télévisions, je pense, possède tous les atouts pour devenir véritablement le lieu de référence de l'information dans notre pays. Que cela soit en termes de qualité, que cela soit en termes d'audience et que cela soit aussi et surtout en termes d'indépendance. Je veux donc pour France Télévisions une information qui rende le monde intelligible. L'investigation a naturellement toute sa place sur France Télévisions. C'est même une des signatures du service public. Non pas que les chaînes privées ne fassent pas d'investigation, mais je crois que le service public a particulièrement le rôle et des moyens peut-être plus importants pour faire de l'investigation. Mais quand on demande à nos concitoyens quelles sont leurs attentes en matière d'information et en matière de magazines d'information, on voit émerger une demande forte qui est ce que j'appellerais la demande du décryptage, la demande de la compréhension. Eh bien, j'entends répondre à cette exigence légitime. Pour cela, les magazines d'information et de société doivent être renouvelés. Il faut développer des thèmes variés, comme l'économie, la géopolitique, ce qui nous permettrait peut-être aujourd'hui de comprendre, par exemple, ce qui se passe en Libye, ou encore la science ou l'éducation à l'image, pour jouer pleinement ce rôle d'éclairage et de compréhension que les magazines d'information doivent apporter. L'ambition des programmes doit également être de toujours mieux représenter la société française, de renforcer le lien social et d'éviter ce qu'il est convenu maintenant d'appeler la France des archipels, éviter que ces archipels s'éloignent. De ce point de vue-là, notre pays est riche de sa diversité, beaucoup de diversité. la diversité, bien sûr, de ses territoires, mais aussi celle de ses citoyens. Diversité de génération, d'origine, de parcours, de culture, diversité sociale, qui évidemment est au cœur de la diversité. Les Français, notamment les plus jeunes, ont, je crois, besoin aujourd'hui d'avoir, de comprendre des exemples pour construire leur vie. Je propose que le service public diffuse 100 portraits de ces Français que l'on appelle parfois, l'appellation est un peu convenue, les invisibles. Ceux qui font vivre notre pays, ceux qui apportent quelque chose à notre pays au quotidien de manière remarquable. En insistant sur les femmes, les jeunes, les ruraux, les ultramarins, les habitants de banlieue et les Français issus de la diversité. Il s'agit d'un projet éditorial fort qui est en train de montrer la France telle qu'elle l'est et non pas telle que parfois on l'imagine ou on voudrait la voir. De ce point de vue-là, pour ceux qui en ont le souvenir, cette série documentaire serait le miroir inversé de ce qu'a été une époque, si mes souvenirs sont bons, la collection Empreinte, qui à l'arrivée avait dû avoir le projet de dresser à travers des documentaires le portrait de 100 Français remarquables, mais remarquables parce qu'ils étaient connus, parce qu'ils avaient fait sans doute des choses remarquables et remarquées dans leur vie. Là, je crois que ce sera l'effet miroir de cette série. Montrer ceux que l'on ne connaît pas, mais dont le parcours, dont la leçon de vie peut être formatrice pour tout le monde, y compris pour les jeunes générations. Cette offre aujourd'hui, elle existe, on la trouve sur Brut, sur Loopsider. Je crois que la France Télévisions peut aussi donner la parole à ces invisibles. En ce qui concerne la diversité, des progrès incontestables ont été réalisés sur le service public et sur le service public de télévision au cours de ces dernières années. Sur les antennes publiques, la place des femmes sera également un engagement fort, qu'il s'agisse de l'engagement de la parité des expertes dans les magazines et les émissions de service public ou de l'image de la femme véhiculée dans les programmes. Cela doit être à la fois une appréciation quantitative, mais aussi une appréciation qualitative. Sur la diversité également, je crois qu'il faut réussir à faire émerger de nouvelles figures. C'est un enjeu, c'est un symbole nécessaire. On pourrait se dire que ce n'est peut-être que symbolique, mais je crois que là, le symbole est fort et que aussi le symbole peut apporter à beaucoup une visibilité derrière, une reconnaissance et donc des modèles. La représentation du handicap devra bien sûr continuer à faire l'objet d'un sujet d'attention constant et je pense à la fois la représentation mais aussi la réponse, par exemple sur toutes les offres qui se développent non linéaires où évidemment les efforts sont considérables mais doivent continuer à être considérables pour permettre à toute personne en situation de handicap d'avoir accès. Et également, toujours dans cette diversité, dans cette représentation de la société française, je voudrais finir par ce point-là, la proximité. C'est un autre enjeu de représentation de la société. Il y a une attente forte des Français, je crois, dans ce domaine, mais nous avons des vrais atouts pour y répondre. On les connaît, le réseau de France 3, les réseaux Outre-mer des Premières. Je souhaite, dans ce domaine, lancer en priorité une offre numérique locale commune notamment réunissant France 3 et France Bleu. Vous me direz, cela ne dépend pas que de France Télévisions, mais en tout cas, je pense que c'est une initiative et un projet qui serait de grand intérêt. Et ce projet-là pourrait faire dans le domaine numérique, et je ne parle pas de chaîne de télévision numérique, bien évidemment, j'y reviendrai. Je pense que ce projet-là pourrait faire une information numérique de référence portée par le service public. Porté par le service public ne veut pas dire exclusivement service public, puisque dans ce domaine-là, on peut aussi rechercher des collaborations et avec les collectivités locales, avec la presse quotidienne régionale. La question du vieillissement du public, de la représentation de la diversité, de l'offre de proximité, appelle des réponses claires et une attention toute particulière. France Télévisions doit être un acteur majeur de la cohésion de notre communauté nationale. J'en viens à présent aux propositions concernant l'offre du service public, qu'il s'agisse des antennes linéaires, qu'il s'agisse des offres sur les plateformes numériques. Dans un univers de contenu fragmenté, avec un développement des usages délinéarisés, la construction et l'organisation de l'offre du service public est naturellement un sujet crucial. Qu'il s'agisse d'une part des chaînes linéaires, et de ce point de vue-là, ce n'est pas toujours très à la mode, mais il ne faut pas minimiser leur rôle. On l'a vu avec la crise sanitaire, elles ont même des capacités, si on apporte les offres adaptées, elles ont même des capacités aujourd'hui encore de croissance. En tout cas, elles demeurent, et de loin, le premier lieu de contact avec le public. Évidemment, ce lieu varie en fonction des générations, mais le constat est là. Ou qu'il s'agisse d'autre part des offres numériques. Alors, concernant les chaînes linéaires, outre le virage éditorial dont je vous ai parlé, qui doit profondément renouveler leur offre, le premier défi est de donner à la chaîne France Info un nouveau projet pour être utile et identifié par son offre différenciante. Il faut notamment, sur cette chaîne, donner de la place au débat et envisager avec la radio France Info une matinale commune. Au sujet de France 4, si la décision de maintenir cette chaîne temporairement ou définitivement devait être confirmée suite aux déclarations de Madame la ministre de la Culture le 9 juillet dernier, il faudra donc revoir profondément son offre éditoriale en élargissant les genres de programmes traités dans une logique pédagogique éducative. En matière de numérique et d'offre numérique, ma conviction est simple. Les supports changent, les contenus restent. En cela, il faut travailler l'organisation des plateformes. Certaines initiatives ont rencontré le succès. C'est le cas de France-TV-Info.fr, menée conjointement avec Radio France, ou encore de la constitution de Salto, qui, bien sûr, n'étant pas encore lancée, son succès reste à faire. Mais j'entends définir, redéfinir des actions stratégiques pour réaffirmer l'empreinte numérique de France Télévisions, qu'elle garantisse à tous ce qui est au cœur du marqueur de la mission publique de la télévision publique, l'accessibilité et la gratuité. La première action consistera donc à réunir l'offre de France Télévisions sous une plateforme et une marque unique. Au cours des dernières années, France Télévisions a opté pour une stratégie de lancement de marques et de plateformes multiples. Au total, ce sont plus d'une dizaine de marques et de plateformes qui coexistent. Lorsque l'on regarde d'autres acteurs forts du numérique, comme Deezer, comme Netflix, mais aussi la BBC, on voit que ces acteurs proposent essentiellement une plateforme qui regroupe leurs différentes offres. Et le tout est proposé sous une marque unique, d'où la force de ces marques. Bien sûr, cela n'empêche pas de décliner sous cette marque ombrelle d'autres thématiques. Tel sera donc mon projet sur l'offre numérique et la plateforme de France Télévisions. Mais pour qu'une telle offre soit accessible au plus grand nombre à tous, il faut se doter d'une plateforme, c'est le terme français de contournement, ou OTT si on prend l'anglicisme plus souvent utilisé, compétitive et performante. Je crois qu'une telle offre OTT, qui diffère de ce point de vue-là des offres des FAI, est d'autant plus indispensable que l'on parle de service public. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons de choix, ou parfois pour des raisons d'impossibilité financière ou autre, qui ne peuvent souscrire aux offres multiservices des FAI, dites triple play. France Télévisions possède aujourd'hui une telle plateforme, mais il faut la hisser sur les plus hauts standards du marché. Il faut donc faire une priorité et investir sur la plateforme OTT qui représente, à côté de Salto, l'offre gratuite et accessible en délinéarisé de France Télévisions. En matière de numérique, il y a, vous le savez, des pratiques sur le marché qui évoluent et qui se développent, et elles sont incontournables. Je veux en donner un seul exemple, mais il est fondamental. Ainsi, l'accès à l'offre de télévision de rattrapage de France Télévisions, aujourd'hui, n'est pas conditionné à un identifiant, un login. À la différence de la pratique qui a été établie dans notre pays par les groupes privés et qui l'est également par certains groupes publics, M. Philippot le rappelait hier, dans d'autres pays européens. Et sans doute à la différence...
Il vous reste 5 minutes, M. Valdéli.
Très bien, sûrement à la différence de ce qui sera la règle sur Salto. Donc je crois que tout en prêtant la plus grande attention aux données personnelles dans le respect de RGPD, il faut avoir une approche pragmatique, résolument tournée vers l'intérêt de l'usager. Mieux le connaître, c'est mieux le servir. Il faut donc que France Télévisions ait une capacité à recueillir davantage de données à travers les logins pour améliorer ses outils de recommandation, son lien avec le public, mais aussi, j'y reviendrai peut-être, pour que son offre, qui va bientôt s'ouvrir de publicité connectée, de publicité ciblée, qui va être autorisée par la loi, que l'offre de France Télévisions soit compétitive avec celle des autres groupes privés, parce que c'est naturellement une source de revenus complémentaires. J'en viens maintenant à mon second axe. Et je finirai par celui-ci qui concerne l'entreprise France Télévisions. En ce qui concerne l'entreprise France Télévisions, je crois que pour mener ce virage éditorial dont j'ai parlé, il faut que l'entreprise continue à faire son évolution. Pour cela, il y a trois chantiers. Un chantier de mobilisation des personnels et d'adaptation des organisations, une gestion des moyens financiers au service des contenus et des choix, des synergies, des collaborations dans un environnement financier difficile et contraint. Le premier point consiste donc à effectuer un travail de mobilisation des personnels et d'évolution de l'organisation de certaines fonctions de l'entreprise. En ce qui concerne les personnels, il faut une stratégie claire qui se développe dans le temps, un management fondé sur la bienveillance et une mise en valeur du rôle du management intermédiaire. Écoute, confiance, définition claire des responsabilités de chacun seront valorisés. Pour cela, mon ambition et mon engagement devant vous sont de constituer autour de moi une équipe resserrée, solidaire et paritaire. Et lorsque je parle de parité, celle-ci s'appliquera aussi bien au comité exécutif qu'à l'équipe de direction resserrée qui entourera le président. En matière d'organisation, je voudrais juste traiter un point parce qu'il est important et je pense qu'il ne faut pas faire trop de réorganisation dans une entreprise qui en a déjà connu beaucoup, mais il y en a un. Je reste dans l'organisation qui a été faite au cours des deux dernières années des antennes et des programmes. En revanche, j'insère à l'intérieur de cette organisation une fonction qui est la fonction de directeur de chaîne. Elle est sous l'autorité du patron de l'ensemble des antennes et des programmes, mais je crois qu'elle permet de remettre plus d'identité, de cohérence. Il faut quelqu'un, je crois, pour porter les chaînes. Le deuxième point concerne la gestion des moyens financiers. J'irai très rapidement sur ce point-là. Vous le savez, la situation de 2020 ne sera pas bonne. Celle des années suivantes peut être difficile. De ce point de vue-là, arbitrage financier, redéploiement, recherche de synergie. J'ai toujours fait ça à l'intérieur des groupes que j'ai dirigés, qu'ils soient publics ou privés. Il faut réussir à tenir la trajectoire financière définie par l'actionnaire et j'entends m'y employer pleinement. J'ai toujours amené les entreprises que j'ai dirigées, encore une fois, publiques ou privées, vers des résultats positifs. Dans ce cadre-là, mais aussi en termes d'offres, il faudra naturellement continuer à travailler sur les synergies et les collaborations avec l'ensemble de l'audiovisuel public, celles qui sont en cours, les matinales avec France Bleu, mais également la chaîne d'info avec Radio France et d'autres à venir, notamment, je pense, avec Arte, où une nouvelle donne est sûrement possible. Monsieur le Président, mesdames les conseillers et messieurs les conseillers, au moment de conclure, je dirais que l'entreprise France Télévisions mérite que l'on s'y attache. Elle n'est pas pour moi un paquebot impossible à gouverner. Mon expérience de France 2, en tout cas, ne m'a pas du tout laissé ce sentiment négatif. Et si on lit la presse, un quotidien hier parlait du pire job des médias en France, eh bien vous voyez, ça ne m'a pas découragé. J'ai lu cet article avec intérêt, mais je suis ce matin devant vous. Je suis devant vous parce que je crois profondément au rôle de cette télévision publique. La France Télévisions n'appartient pas à ses dirigeants. Ils en sont, dans le meilleur des cas, les locataires. Elle appartient à tous les Français, mais surtout, son avenir ne peut se construire qu'avec son actionnaire, avec l'instance de régulation et avec ses personnels. C'est la raison pour laquelle, si nous nous plaçons dans 5 ans, j'espère que dans 5 ans, à travers toutes ces actions, la question que je vous posais initialement aura une réponse positive. En tout cas, je fais mienne la phrase de Malraux, il y a une télévision pour passer le temps, il y a une télévision pour le comprendre. Ma conception de la télévision publique est clairement une conception d'une télévision pour comprendre le monde. Merci.
Merci beaucoup de votre présentation et d'avoir tenu dans le temps imparti. Je vais me tourner vers les membres du collège, à commencer par Nicolas Curien qui va vous poser la première question.
Merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous voyez le développement symbiotique des deux segments, linéaires d'une part et non linéarisés d'autre part ? Et peut-être en complément, aujourd'hui la plateforme TNT souffre d'un déficit de compétitivité par rapport à la distribution en OTT ou via les FAI. Quelles sont vos impressions sur la nécessité de moderniser cette plateforme et quel rôle moteur pourrait jouer France Télévisions dans cette perspective ?
Alors je commence peut-être, si vous permettez, par le deuxième point. Je l'ai dit, il ne faut pas avoir l'illusion que tout le monde a accès à toutes les offres à travers les FAI, à travers les triple play. Et de ce point de vue-là, la TNT demeure, que ce soit aujourd'hui dans la télévision linéaire et demain avec sa modernisation dans une télévision plus interactive, demeure fondamentalement pour moi une nécessité et un atout pour notre pays. J'ai eu la chance d'être dans un groupe M6 où on a vécu le début de la TNT, je dirigeais W9, j'ai vu le formidable essor qu'a permis la TNT dans le pays, le formidable succès. Aujourd'hui, il y a encore un nombre considérable de nos concitoyens qui n'ont accès à la télévision qu'à travers la TNT. Donc clairement, France Télévisions, comme groupe public, devra être en initiative pour tout ce qui concernera la modernisation de la plateforme TNT, que ce soit l'interactivité, que ce soit la haute définition. J'en viens à la première partie, enfin à votre première question, qui est l'articulation. Alors, sujet évidemment extrêmement complexe, mais je vais essayer de donner une ou deux idées simples. La première, c'est que je crois que aujourd'hui, on ne peut plus raisonner exclusivement en programme pour le linéaire et programme pour le numérique. Ce n'est pas en tout cas comme ça que font les groupes privés dans lesquels j'ai travaillé ou que j'ai vu travailler à l'intérieur de RTL Group. Je crois qu'aujourd'hui, essentiellement, c'est la force des programmes qui sont diffusés sur plusieurs plateformes, dont une chaîne de télévision, qui doivent d'entrée de jeu être pensées par rapport à l'intérêt qu'ils peuvent susciter sur les différentes modes de plateformes où ils seront diffusés. Si je prends un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, un programme comme 10% a bien montré, je l'ai mis dans mon rapport, qu'il peut avoir une vie sur toutes les plateformes. Et pourtant, c'est quoi ? C'est un programme de télévision, une fiction de télévision. Quand vous regardez Netflix, qui est une des références, excusez-moi de citer, je ne veux pas leur faire de publicité, j'aurais pu citer d'autres plateformes, mais c'est sûrement celle qui est la plus utilisée en France, donc c'est celle qu'on connaît le mieux. Quand vous regardez l'ensemble des programmes qui sont diffusés sur Netflix aujourd'hui, ce ne sont que des programmes de télévision, fiction, documentaire et autres, demain sans doute magazine et peut-être sport comme sur Amazon Prime. Ces programmes, soit ils ont déjà été diffusés sur des chaînes de télévision et ensuite ils sont rachetés par Netflix en termes de stock, et rediffusés sur la plateforme Netflix, soit ils sont commandés par Netflix en cinéma ou en fiction, série de fiction ou en documentaire, mais en vérité, ils sont conçus selon des standards de cinéma ou de télévision. Et d'ailleurs, ils pourraient très bien, et certains le sont ensuite, être diffusés, s'il n'y avait pas le problème de l'exclusivité, sur ces autres supports. Alors cela ne retire pas et n'interdit pas le fait de faire aussi des programmes spécifiques pour le numérique. C'est naturellement le cas sur France TV Info, et cela doit être le cas sur la plateforme France Télévisions TV, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Le numérique aujourd'hui, ce ne sont pas que des programmes originaux uniquement faits sur le numérique, qui ensuite, quand ils sont diffusés sur des chaînes en clair, ne trouvent aucun public. Parce que je pourrais en citer, vous avez un exemple d'une série numérique qui a extrêmement bien marché, en tout cas qui est montrée en exemple par France Télévisions, lorsqu'ensuite elle est diffusée sur France 4, l'audience n'est pas là.
C'est un des points singuliers de votre projet stratégique, le point que vous venez d'exposer, et distinctif souvent des autres candidatures qui nous sont soumises. Comment vous organisez néanmoins la conquête des nouveaux publics et notamment comment vous répondez au défi du jeune public qui, et on sait que pour France Télévisions, c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'il ne faut pas leur adresser sur des vecteurs spécifiques, des offres spécifiques ?
Bien sûr, leur adresser. D'abord, il faut bien sûr leur adresser sur des vecteurs spécifiques, des offres spécifiques ou non spécifiques, on y reviendra. Mais ce jeune public, encore une fois, il ne faut pas l'oublier sur les chaînes linéaires. Je ne suis pas le seul à penser cela, puisque vous le savez que dans les travaux qui n'ont pas abouti sur la loi sur l'audiovisuel, les parlementaires avaient rajouté par un amendement le fait que le service public devait aussi s'adresser au jeune public sur les chaînes linéaires. Le confinement nous a montré que ce jeune public, il peut aussi retrouver le chemin des chaînes linéaires. Donc déjà, je crois qu'il y a véritablement des efforts à faire sur les programmes des chaînes linéaires pour déjà retrouver ce public. Et je mentionne un certain nombre d'exemples dans mon rapport. Je viens de vous en rappeler un devant, qui est celui de l'environnement. Après, à partir de là, ces programmes-là, ils peuvent être naturellement, ils seront diffusés sur des chaînes linéaires. Donc pour un public qui a plus l'habitude de venir sur ces plateformes-là, plus jeune, il va le trouver là. Mais aussi, et ça c'est important, et c'est peut-être une différence de vue par rapport à la pratique actuelle que je mentionnais dans mon rapport, il faut aussi aller sur toutes les plateformes, quelque part, pour rayonner et diffuser nos programmes, y compris parfois sous des formats plus courts, pour donner envie de voir le programme. De ce point de vue-là, c'est exactement ce que fait le groupe M6. Le groupe M6, par rapport à des programmes qui passent sur ces chaînes de télévision, ensuite en fait des extraits, des remontages pour les diffuser sur d'autres plateformes, Facebook ou autres. Et je crois qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, le groupe France Télévisions a décidé depuis la fin de l'année 2019 plutôt de se couper de ces plateformes. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas. Je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas faire une hyper-distribution parce qu'il faut contrôler sa distribution, mais il faut faire une distribution très large de nos contenus. C'est ce que je disais quand je disais les contenus restent, les plateformes évoluent. Et elles évoluent, sans cesse. Alors encore une fois, je le dis, ça ne retire pas le fait, par ailleurs, de faire des contenus spécifiques pour un public jeune, parce qu'on pense qu'il sera plus adapté à ce public-là. Mais ça ne peut pas être le seul axe.
Jean-François Marie.
Juste compléter la question du président. Est-ce que l'orientation que vous préconisez, qui est effectivement marquée de manière nette dans votre rapport et dans l'exposé que vous venez de faire, est-ce que cette orientation ne risque pas de se faire au fond au détriment de l'originalité de certaines formes d'écriture que le support numérique a rendu nécessaire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends votre démarche, mais à partir du moment où sur tel ou tel service numérique lancé par France Télévisions et avec succès, on a bien vu qu'il y avait des nouvelles manières d'écrire un scénario, de concevoir un programme. Alors est-ce que cet enjeu, qui est quand même un enjeu essentiel, ne risque-t-il pas d'être la victime, au fond, d'une orientation comme la vôtre ?
Alors, deux points. Le premier, je l'ai dit, on peut très bien, c'est ce que font tous les groupes, faire à partir des programmes télévisés tels qu'ils sont, des remontages. Les remontages sont des formes de réécriture et des formes de recomposition. Ça, c'est le premier point. Et ça, il faut le faire, il faut sans doute le faire davantage pour le compte, en allant diffuser ces programmes-là sur tous les réseaux. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, il y a des écritures uniquement adaptées, disons, au web et au numérique. Je ne dis pas qu'on ne va pas en faire. Je dis juste que penser que toute la réponse est là me semble passer à côté d'une partie de la réponse. Je vais dire simplement, jeune public, je crois qu'il faut aller le chercher partout et par tous les moyens.
Nathalie Sonac.
Merci, Monsieur le Président. Une question sur... vous disiez, vous avez deux axes majeurs, et notamment votre virage éditorial. D'une part, vous dites, et vous nous l'avez redit à l'oral, mais vous l'écrivez dans votre projet stratégique, la suppression des fictions américaines en première partie de soirée. Et vous donnez l'exemple aussi du Bazar de la Charité, qui a été diffusé sur TF1 en 10 ans, ça aurait pu être un programme diffusé sur les antennes de France Télévisions. Si on regarde à peu près le budget qui était annoncé extérieurement, en tout cas dans la presse, c'est 17 millions d'euros pour 8 épisodes, ce qui fait plus de 2 millions par épisode. Est-ce que France Télévisions a les moyens de supprimer les fictions américaines en première partie de soirée, dont on sait qu'elles coûtent moins cher, et les moyens de mettre 2 millions par épisode sur les antennes ?
Alors, il y a, si j'ose dire, américains des deux côtés. Mais je crois que c'est quand même deux démarches, même si elles s'articulent, vous avez raison, je crois que c'est quand même vraiment deux démarches différentes. La première, je dis, nous supprimons les séries US et nord-américaines pour faire de la place, pour dégager du budget et pour affirmer la spécificité du service public.
C'est là que je ne saisis pas, pardon, sur le dégager du budget. Vous dégagez du budget en mettant de la fiction française dont on dit qu'elle coûte plus cher.
Entendons-nous bien.
D'abord, que la fiction américaine, déjà, essorée ailleurs.
Non, mais la fiction américaine, d'abord, a des coûts variables qui sont plutôt inférieurs, vous avez raison, évidemment, à la fiction française, puisqu'elles sont déjà amorties. Néanmoins, il arrive à France Télévisions, sans doute, à l'occasion de mettre de l'argent sur la fiction américaine, parfois, d'ailleurs, pour la prendre à ses concurrents privés qui étaient prêts eux-mêmes à payer un certain prix. Donc la fiction américaine n'est pas systématiquement très bon marché. Après, il y a une toute autre démarche. Pour moi, soyons clairs, il n'y a pas de coup de case. Quand je dirigeais France 2, j'ai toujours refusé le principe de coup de case. Pourquoi payer le même prix une fiction qui va être quasiment en huis clos contemporaine par rapport à une œuvre avec des champs de bataille sur Napoléon ? J'en viens maintenant au Bazar de la Charité. Il y a deux principes. J'ai pris cet exemple parce qu'il est frappant, parce qu'il est récent. Il y a deux principes. Il y a la première qui est que oui, je considère qu'aujourd'hui... ça va vous sembler, je vais dire, je ne fais pas de l'anti-américanisme primaire. Ce n'est pas parce que je supprime les séries US américaines que je considère que dès que quelque chose est américain ou anglo-saxon, on ne peut pas travailler avec lui. En l'espèce, je l'ai dit et je le réaffirme, je pense qu'il ne faut pas s'interdire, le cas échéant, ce sera sans doute assez rare, hein, parce que les possibilités ne sont pas nombreuses, d'avoir des collaborations avec telle ou telle plateforme, si on est à l'origine du projet. Ce qui, à ma connaissance, a été le cas du bazar de la charité. C'est un projet que TF1 a porté, c'était un projet TF1, et ensuite, il se trouve que Netflix a été intéressé et a abondé le financement. Et d'ailleurs, il y a deux façons de faire. Soit, comme ils l'ont fait, vous passez tout de suite derrière la diffusion linéaire sur TF1, soit vous passez, c'est aussi des modèles qui existent, comme vous le savez, au-delà des deux ans de droit. Évidemment, quand vous laissez passer tout de suite, ce qui est le cas pour le bazar de la charité, le financement est souvent plus important, et pour une œuvre comme ça qui était très chère. Donc je ne sais pas quelle est la part du financement de Netflix, je pense qu'elle est très importante. Mais quand on prend des fictions ambitieuses, je crois que le service public a toujours montré qu'il était capable de mettre à peu près le même argent que TF1. Mais à contrario, TF1, je pense que sans Netflix, n'aurait pas été capable de faire cette fiction-là, ou en tout cas de la faire dans ces conditions, à ce coût-là. Et c'est la raison pour laquelle je dis que pour certaines, oui, l'argent est rare, y compris l'argent public est rare. Donc si nous avons des beaux projets ambitieux qui demandent de l'argent, il ne faut pas s'interdire, pour peu que le service public soit l'initiative et demeure maître du projet, s'il y a un financeur important, il ne faut pas s'interdire telle ou telle collaboration.
Carole Bien-Aimée Besse.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Moi, je voulais revenir sur peut-être deux points que j'ai peut-être pas, enfin peut-être que vous n'avez pas détaillé, parce que vous avez beaucoup parlé de programmes audiovisuels et peut-être moins de cinéma. Et j'aurais voulu avoir votre vision en fait, de la stratégie qui serait la vôtre à la tête de France Télévisions. Est-ce qu'il faut garder deux antennes, deux pôles, donc France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, avec deux lignes éditoriales différenciées? La Cour des comptes, dans un rapport de 2015 ou 2016 de mémoire, parlait d'une déconnexion entre les investissements faits dans le cinéma, je crois qu'on est autour de 55 millions d'euros, et des antennes. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous rectifieriez le tir? Et par ailleurs, vous avez beaucoup développé sur la nécessité de moderniser le genre documentaire, genre qui n'est pas trusté par les Américains, sachant que, alors, effectivement, il faut innover, mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que sur les marchés internationaux, et vous citez BBC, si on n'a pas un bras armé comme la BBC Worldwide, donc une distribution forte et puissante, même si on a un programme intéressant, c'est compliqué. Donc, France Télévisions Distribution, dans votre programme, voilà, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que souvent, aujourd'hui, les producteurs préfèrent distribuer eux-mêmes leurs programmes ou faire appel à d'autres sociétés de distribution, dont des sociétés de distribution étrangères qui apportent des MG. Donc, voilà, France Télévisions, distribution, à quoi ressemblera la structure si vous devenez président de France Télévisions?
D'accord. Alors, sur la première question, qui est la question du cinéma, effectivement, vous avez raison. Le rôle de France Télévisions et l'investissement de France Télévisions dans le cinéma est considérable, puisqu'à côté des 420 millions qui sont investis sur les œuvres hors cinéma, il y a, vous l'avez rappelé, près de 55 millions qui sont investis sur les œuvres cinéma. Et je ne parle pas, le cas échéant, des achats de films aussi qui peuvent exister, quand France Télévisions parfois loupe un film à l'origine. Si le film est intéressant, il peut toujours rapidement derrière, pour peu qu'il n'y ait pas de chaîne dessus, le racheter, cela se fait régulièrement. Donc l'investissement sur le cinéma est encore sans doute un peu supérieur. Mais peu importe. Si on prend 420 plus 55, je crois même d'ailleurs de mémoire que je crois qu'on est même à 60 aujourd'hui. Oui, oui. 60, merci, ouais, on est à 60. Ouais. On est bien, l'investissement dans la création cinéma-œuvre aujourd'hui de France Télévisions, il y a plus de 480 millions. Donc pratiquement à 500 millions. Et on peut imaginer que, les accords étant ce qu'ils sont, que dans les années à venir, on soit plutôt un jour aux 500 millions qu'aux 480. Alors le cinéma lui-même, vous avez raison, la Cour des comptes l'a rappelé, il y a une forme de déconnexion entre ce qui est commandé et ce qui est diffusé. Et puis je pourrais dire ce qui est peut-être diffusé après minuit. Donc si on regarde réellement ce qui est diffusé avant minuit et ce qui est connecté, et ce qui est, et il y a une déconnexion, elle ne date pas d'ailleurs, je crois, d'aujourd'hui, puisque le rapport de la Cour des comptes portait déjà sur un mandat précédent. Là-dessus, plusieurs observations. La première, c'est qu'il va y avoir quelque chose de formidable. C'est un nouveau décret qui va permettre d'ouvrir des jours pour la diffusion du cinéma. Donc je l'ai dit dans mon rapport, ça donne véritablement de nouvelles opportunités pour les chaînes. Et quand on a 5-6 chaînes publiques, par définition, je l'ai dit, on peut au minimum recréer une nouvelle case de cinéma. Donc déjà, ça permet de faire davantage de diffusion clairement. Le deuxième point, c'est... Alors, sur les deux filiales séparées, j'aurais tendance, moi, à les garder. Pourquoi j'aurais tendance à les garder ? Parce que je pense qu'avoir deux guichets, malgré tout, n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup d'endroits à France Télévisions où on n'a plus qu'un seul guichet, ce qui est une évolution. Encore une fois, je ne la remets pas en cause. Sur le cinéma, peut-être qu'on a intérêt, au moins, durant quelques années encore, à garder deux guichets. En revanche, je vous rappelle, vous le savez, que ces filiales sont présidées par le président de France Télévisions. Donc, quelque part, c'est à lui de faire son travail avec ces deux filiales pour qu'il y ait l'harmonisation qu'il faut, pour que les deux soient bien articulés. C'est son job. Et s'il ne veut pas le faire en direct, il peut avoir un de ses collaborateurs qui connaît bien le cinéma qui puisse faire cela. Donc, je pense que sur ce sujet-là, il y a un autre sujet que vous suggérez, c'est au fond, est-ce qu'on monte dans des projets sans se dire qu'un jour, le film sera diffusé réellement sur une antenne ? Ça, c'est un sujet très difficile, parce que, comme vous le savez, on monte en amont sur les projets. Et il y a un projet qui peut être très adapté à une antenne, et puis à l'arrivée, le film juste a été pas réussi ou différent, ça arrive. C'est le problème de... Je crois néanmoins qu'il est important, c'est en tout cas ce que je faisais quand je dirigeais la 2, la filiale cinéma de la 2, paradoxalement, n'était pas sous ma responsabilité. Mais chaque fois que le patron de cette filiale, Pierre Hérault, que je salue, choisissait un film, il m'expliquait pourquoi il avait choisi, est-ce qu'on attendait dans le film, est-ce qu'il pouvait être de telle sorte qu'on savait déjà, en termes d'antenne, quel pouvait être, excusez-moi l'anglicisme, le line-up ou l'approvisionnement pour voir quels sont les films qui pouvaient être intéressants. Donc je pense qu'il ne faut pas strictement avoir une vue antenne, parce que le temps passe, les antennes évoluent, et encore une fois, les projets, entre le moment où ils sont commandés et le moment où ils arrivent, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire des efforts pour que les films soient davantage diffusés et à des heures correspondent mieux aux besoins des antennes et soient davantage diffusées à des heures visibles. Et de ce point de vue-là, c'est la raison pour laquelle je pense que la nouvelle réglementation sur les jours autorisés nous permettra d'évoluer. Et, pardon, juste, j'essaie d'aller peut-être vite. Il y avait la deuxième question qui était la question sur le genre documentaire et sur FTD. Ça, c'est une question difficile parce que, comme vous le savez, en plus, au fur et à mesure des accords qui ont été faits avec les producteurs, et notamment le dernier accord de mémoire, prend beaucoup de droits, donc donne des possibilités à FTD. Après, il faut que FTD soit véritablement un bras armé pertinent sur les marchés internationaux. J'ai tendance à dire que c'est toujours pareil. C'est quand on a des bons produits, des bons projets qu'on y arrive. Je vous donne l'exemple de 10%. 10%, c'est bien vendu à l'international. C'est un des rares parce que je pense que le projet avait une force en soi, le contenu, qui l'a rendu attractif sur les marchés.
Bon vendeur. C'est mieux. Enfin, je veux dire, la BBC, c'est vraiment
d'excellents vendeurs.
Et juste une dernière petite question sur le cinéma, puisque effectivement, beaucoup des films sont aussi diffusés sur France 4 et France O. Donc, vous envisagez comment les choses ? Parce qu'au-delà d'ouvrir les secteurs interdits, qui permettent effectivement de laisser plus de place au cinéma, ça fait quand même beaucoup de stocks à diffuser.
Alors, la question que vous évoquez en cas de disparition de France O, qui a l'air d'être plutôt actée, et celle de France 4, qui a l'air d'être encore en suspens. Un autre rapport, pas celui de la Cour des comptes, récent, qui a été au début de cette année, montre que, pas seulement pour le cinéma, mais pour d'autres choses, pour le spectacle vivant, France 4 était clairement, pour le sport aussi, un réceptacle assez important de diffusion d'un certain nombre de genres pour le groupe. Donc déjà, si on appuie France 4 ou si on reconfigure France 4, les questions que vous vous posez sont des questions qui vont être devant nous. Donc évidemment, le président de France Télévisions et ses équipes auront à les traiter.
Michel Léridon.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. Vous souhaitez développer et poursuivre le déploiement des matinales communes entre France 3 et France Bleu. Vous avez parlé aussi de matinales communes pour France Info. Effectivement, et vous l'écrivez, c'est un projet symbolique dans la cohérence de l'offre et le développement des synergies. Pour autant, j'aimerais avoir votre avis, de téléspectateurs sur ces matinales, puisqu'on parle parfois de radio filmée. Et par ailleurs, plus généralement, puisque vous avez parlé de synergie et de redéploiement, savoir un peu ce que vous envisagez, notamment en ce qui concerne les journalistes, puisqu'on parle de la plus grande rédaction de France, finalement, pour tout le groupe de France Télévisions. Donc comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors, sur le premier point, je ferai une distinction. Aujourd'hui, entre France Bleu, France 3, évidemment, et France Info. Alors, sur France Info, aujourd'hui, il y a une demi-heure en commun qui est ce qu'on appelle, non pas le quart d'heure, mais la demi-heure politique de Marc Fauvel. Ce que moi, je propose, naturellement, en discussion avec Radio France, mais a priori, je pense que c'est quelque chose qui peut les intéresser, c'est de faire une véritable matinale, en commençant à l'heure à laquelle la matinale commence, c'est-à-dire 7 heures. De ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet, parce qu'on a clairement des précédents. On a celui du groupe Next. On sait qu'on peut travailler une émission de radio parce que, en fonction d'une matinale de télévision. Et pour une raison très simple, c'est qu'en vérité, ça c'est l'ex-patron d'RTL qui vous le dit, j'ai vu que les matinales de télévision se sont de plus en plus calquées en termes de rythme, de composition et même de sonore sur les radios, tout simplement parce qu'elles pensent que les gens, pour écouter une matinale de télé, ont besoin parfois de ne pas la voir, mais juste de l'écouter. Donc je ne suis pas inquiet sur ce point-là. Je pense qu'à peu près telle quelle, la matinale de France Info, évidemment, si on la fait ensemble, il faudra qu'on en discute ensemble et qu'on apporte des changements. Mais si on devait aujourd'hui la diffuser, elle pourrait être assez adaptée à la télévision. Ce n'est pas du tout le cas, à mon sens, dans les expérimentations qui ont lieu actuellement entre France 3 et France Bleu. Je pense, pour faire simple, que là, on est véritablement dans de la radio filmée. C'est-à-dire qu'on fait la matinale telle qu'elle existe sur France Bleu, on met un peu d'infographie, on filme ça et on le diffuse. Je ne crois pas, et c'est là l'intérêt de l'expérimentation, puisqu'on est encore dans une phase d'expérimentation, avant de développer sur 44 matinales et régions, je crois qu'il faut continuer à travailler, mais vraiment travailler ensemble, France 3 et France Bleu, pour essayer de travailler. Ça existe, hein, on l'a dit, ça existe aujourd'hui, des matinales communes, radio et télé, donc on sait à peu près comment faire. Mais je crois, et en plus je pense qu'il y a un autre sujet, c'est-à-dire que c'est diffusé sur France 3. France 3 est donc responsable en tant que diffuseur. De ce point de vue-là, France 3 ne peut pas totalement déléguer son rôle éditorial à, même venant du service public, une autre entité du service public. Donc je pense qu'il y a aussi un petit problème juridique, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces matinales vraiment sont conçues comme la diffusion des matinales de France Bleu. Pardon, il y avait une deuxième question qui était sur le... Alors oui, plus grande rédaction de France, mais même si elle est aujourd'hui unifiée, on le sait, une grande partie de cette rédaction, elle est quand même en région. Donc, des redéploiements, je pense qu'il faut déjà regarder précisément le fameux plan 2015 qui a été achevé en 2019, je crois, tous ses effets, est-ce qu'on en a tiré toutes les conséquences ? Je me pose une question, évidemment, sur la chaîne France Info. C'est-à-dire, je ne sais pas aujourd'hui quels sont également exactement les moyens de la chaîne France Info. J'entends dire qu'ils n'en ont pas assez, mais on en a. Les gens trouvent qu'ils n'ont jamais assez de moyens. Mais en tout cas, ça doit être un point, comme je l'ai dit, France Info, dans son ensemble, doit être un point, une priorité et un point d'intention. La question des moyens, la question des synergies entre la rédaction nationale qui travaille sur France 2, qui travaille sur France 3 au niveau national et la chaîne d'info, ces sujets-là doivent vraiment être regardés de près, parce qu'on n'aura pas une réponse sur France Info si on n'a pas aussi une réponse sur la façon dont ces chaînes-là, elles sont faites par les journalistes, donc sur la façon dont ils travaillent, sur la façon dont ils peuvent travailler entre les différents supports.
Un mot peut-être sur la trajectoire financière, le dernier conseil d'administration de France Télévisions du 11 juin dernier donc a affiché une prévision budgétaire à moins 37 millions d'euros pour l'exercice de 2020. Vous connaissez la trajectoire financière arrêtée par l'État jusqu'en 2022, qui prévoit deux nouvelles marches d'escalier, non pas montant mais descendant, en 21 et en 22. Comment vous envisagez de gérer cette trajectoire financière au regard des projets que vous présentez dans votre dossier stratégique ?
Alors d'abord, soyons clairs, je l'ai dit, tous mes projets se feront sur l'enveloppe et les financements existants. Je ne demande pas et je n'ai pas besoin d'enveloppe supplémentaire. Je pense que France Télévisions a au total quand même des moyens considérables. Alors certes, on n'a jamais assez de moyens. Mais pour avoir d'autres expériences dans le privé, où parfois les moyens étaient plus limités, je pense que ces moyens-là, si on fait des choix forts, si on redéploie, permettent clairement de réaliser mon programme. Et je l'ai toujours présenté comme tel. J'en arrive maintenant à l'année 2020. Il y a eu l'effet de la crise qui a affecté tous les médias, France Télévisions aussi, un peu moins parce qu'il y a moins de publicité sur France Télévisions, mais quand même. Donc je pense que, et c'est la prévision de la direction aujourd'hui, l'année sera déficitaire. Après, la question est de savoir à quel niveau sera ce déficit, ce qui peut aussi poser à un moment donné des sujets, si ce n'est des problèmes, des sujets de trésorerie. J'en arrive à 2021. 2021, aujourd'hui, sincèrement, je crois qu'un autre candidat vous le disait hier lors de son entretien, les documents dont nous disposons aujourd'hui ne permettent pas d'avoir beaucoup de vues sur 2021. Il y a un rapport d'expertise demandé par les syndicats qui parle de chiffres considérables de décalage et de coûts supplémentaires qu'il y aurait en 2021. Je ne le fais pas mien, parce que je n'ai pas lu dans le détail, j'ai même pas lu du tout ce rapport, j'ai juste lu le compte-rendu qu'en faisait la presse. Donc je ne sais pas aujourd'hui quelle est exactement la situation du groupe et quels sont les reports de charges. On sait qu'il y a les Jeux Olympiques, s'ils ont lieu à Tokyo en 2021, n'a pas encore été prise en compte annuellement, et ce sera le cas en 2021, le coût des Jeux Olympiques de Paris, qui est important, qui est beaucoup plus important que le coût habituel qu'avaient les Jeux Olympiques. Donc tout ce que je peux dire sur ce sujet-là, c'est que mon expérience, mon tropisme, si j'ose dire, fait que j'ai toujours mis les entreprises que j'ai dirigées, publiques ou privées, à l'équilibre. Donc je m'inscrirai dans un équilibre à 2022, ça c'est certain. 2020, je crois que c'est plus le sujet de l'équilibre. Quant à 2021, je ne peux pas aujourd'hui, je ferai tout pour qu'on soit à un équilibre, mais je ne peux pas aujourd'hui m'engager là-dessus parce que je ne dispose pas des éléments qui me permettraient de le faire.
Jean-François Marie.
Merci, Monsieur le Président. Oui, vous marquez, vous exprimez notamment à la page 17 de votre rapport, disons, une vue non pas critique, mais je dirais réservée. En tout cas, c'est dit en termes polis. Sur la qualité des séries de fiction commandées ou produites par France Télévisions. Vous dites qu'il y a les séries nordiques, belges, espagnoles, premier groupe, deuxième groupe, un groupe Arte, Canal, et puis France Télévisions se situe, selon vous, un peu en deçà. Et par ailleurs, vous regrettez la place trop importante, mais c'est dit dans d'autres dossiers accordés au genre policier. Et vous pensez qu'au fond, du côté des coproductions européennes, il y a aussi peut-être à prendre ou à laisser. Je voulais savoir exactement ce que vous feriez si vous étiez désigné président de France Télévisions à cet égard. Et d'ailleurs, si vous permettez une petite question, je n'ai pas vu dans votre rapport un point particulier sur les rapports entre production interne et production externe et quand même ce dernier sujet à avoir avec la première question que je vous posais.
Alors, ce sera la dernière question de cette session publique.
Alors, je fais le lien directement. Quand on parlait des succès de France Télévisions, il y en a un, je l'ai mentionné, qui est le feuilleton de la 2, diffusé juste après le journal, et qui est d'ailleurs produit en production interne, et qui d'ailleurs, je pense, prend une grande partie du couloir de production interne, qui aujourd'hui doit être à 17,5%, je crois. Ce que je mentionnais à travers... là, je parlais vraiment de la créativité des séries. Ça va peut-être paraître injuste, et peut-être que j'ai des oublis. Mais j'ai un peu l'impression, non pas qu'elle était nécessairement la meilleure, mais que en termes de créativité, la dernière série de France Télévisions qui a été remarquable et remarquée et qui a fait parler, c'est 10%. Donc cela date maintenant d'un certain nombre d'années. Or, quand on voit l'investissement annuel de France Télévisions dans la fiction, hein, on le sait, il est extrêmement conséquent, près de 300 millions d'euros. C'est donc beaucoup de sujets, beaucoup de programmes, donc... Oui, c'est un peu... je ne crois pas que c'est une critique. Tout le monde peut avoir son avis, mais je crois que les dernières années, en matière de fiction, il y a eu plein de choses intéressantes. Mais en termes de séries, je ne parle pas d'unitaire. Je parle vraiment de séries, ce que vous avez évoqué. En termes de séries, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu les deux, trois... Et c'est difficile d'en sortir. Parce qu'on parle de Casa del Papel, Borgen, ils n'en sortent pas 10 par an. Mais on peut penser que dans la masse, il y a une capacité à en avoir quelques-unes qui émergent. En tout cas, ça revient sur ce que je disais sur le risque, sur l'innovation. Je pense qu'effectivement, c'est le rôle du service public et qu'il doit trouver des voies. Sur la production interne, J'ai un peu répondu. Il y a aujourd'hui des règles, donc il faut s'inscrire dans ces règles. France Télévisions s'est longtemps caractérisée par le fait qu'il n'y avait quasiment pas de production interne, en dehors de l'info, évidemment, et du sport. C'était lié à la volonté en France de développer de la production indépendante. Si les règles évoluent, France Télévisions, on est de ce point de vue-là très différent d'une situation comme la Belgique, où au contraire, la production interne sur la RTBF représente une part très très importante. Donc c'est bien la raison pour laquelle il faut aller chercher la créativité, si vous permettez juste, il faut aller la chercher à l'extérieur, chez les producteurs. Et c'est ce que je disais dans le lien, dans cette compétition qu'il va y avoir sur les talents. Il faut aller la chercher à l'extérieur, mais il faut que les interlocuteurs intérieurs soient dirigés dans ce sens-là. Et cela dans l'esprit, il ne faut pas faire des choses trop lourdes, parce que je crois que si on met 10-15 personnes pour dessiner un programme, on prend rarement le plus créatif.
Merci. On va marquer une petite pause, le temps que les personnes ici présentes veuillent bien se retirer de la salle pour la deuxième partie de cette audition qui se fera à huis clos. Merci.